des abîmes, nous absorberons le paradoxe, nous délogerons l'insignifiant. Nous ne sentirons plus nos lamelles, nos pieds, nos têtes. Nous revendiquerons le droit de ne pas exister. Et nous redeviendrons champignons de poussière. Merci beaucoup.
Sarah Masson qui nous a proposé une lecture poétique de ses textes. Nous partons en musique avec le groupe The Deep que vous retrouverez sur le festival Ça sonne à la porte ce samedi à Grosseuvre à partir de 23h. Seems like it shouldn't be so hard. Wish I could replace you. Maybe we could leave it all behind. Oh, my good mind. State line is 100 miles away, but I never felt so distant before. Let me introduce you, baby, to all of the ways I can let you down. Well, let me seduce you. Maybe we can get this shit off the ground.
Leblanc.
Bonjour.
Bonjour Mélanie, merci d'être avec nous. Nous avons Sarah Masson.
Bonjour.
Bonjour, enchantée.
Merci.
Et Emmanuel
Campo.
Mais je vous savais. C'était un petit effet de rythme. Alors, vous êtes aujourd'hui à la Factory pour ces 10 ans. Vous avez transmis vos textes en direct sur le plateau, vraiment, là, sur une rencontre directe publique. J'entendais Mélanie qui disait, mais quel plaisir d'être avec des gens du vivant, de renouer. Je crois que le Festival Poésia, vous le connaissez depuis un petit bout de temps. Vous avez déjà traversé en tant que résident artiste ou intervenant dans ce lieu-là. Allez, on est dans les 10 ans. Les 10 ans, pour vous, ça, à la Factory, ça vous fait quoi? Et qu'est-ce que vous apporteriez de votre vision aujourd'hui, 10 ans après d'existence de ce lieu-là?
Je n'ai pas assez réfléchi à cette question. Peut-être parce que le passage du temps, c'est vraiment une question qui est très profonde et vertigineuse parfois. Ce qui me fait chaud au cœur, c'est l'amitié. Et je vois que 10 ans après, les amis sont toujours là. Et en fait, les amis ont pu prendre aussi davantage la place et s'exprimer et développer vraiment une structure, un lieu très important en ce moment, non seulement au niveau local, mais au niveau national. C'est, la Factory, elle est reconnue par tout le monde de la poésie, tout le monde rêve de venir en résidence à la Factory. Et voilà, cette qualité n'est plus à prouver au niveau national. Et donc, moi, je suis ravie de voir l'épanouissement de ce lieu, qui était déjà super il y a 10 ans, mais alors là, avec l'équipe actuelle et tous les projets, etc., ça a pris une ampleur géniale, magnifique, qui m'enthousiasme beaucoup.
Donc, un lieu qui compte aujourd'hui pour les artistes. Super, merci. Sarah ou Emmanuel.
Moi, j'ajouterais simplement que les années nous permettent de revenir régulièrement dans ce lieu, ce qui est toujours un plaisir. Moi, j'étais pas là au début il y a 10 ans, mais je suis arrivée en résidence il y a deux ou trois ans ici, et il y a vraiment quelque chose qui émane de ce lieu. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais effectivement, avec une équipe extraordinaire, très chaleureuse, où on est toujours bien, quoi, comme chez soi, comme à la maison. Et effectivement, ça permet de rencontrer des gens incroyables comme Emmanuel Campo et Mélanie Leblanc, et notamment, mais plein d'autres gens, et de partager la pratique de l'écriture et de discuter avec des gens qui font la même chose ou d'autres choses d'ailleurs, parce qu'il y a aussi d'autres résidents qui sont pas forcément que poètes, des musiciens, des gens qui viennent du théâtre, etc. Et donc les années nous aident, et nous, voilà, on adore revenir. Moi, j'adore revenir ici très régulièrement.
Et ce qui est important, c'est qu'un lieu puisse à la fois accompagner et soutenir les artistes que le lieu connaît déjà, en fait, mais aussi pouvoir renouveler, en fait, ouvrir la porte à de nouvelles personnes. Et en tant que personne qui a eu j'ai déjà été 2 fois en résidence ici, et maintenant je peux, on va dire, je suis en diffusion, c'est-à-dire que je montre mon travail. C'est très important pour que le public comprenne bien qu'en fait les choses sont dans des processus de production et que les choses ont c'est important de pouvoir s'inscrire dans des rails sur un temps long et pas uniquement une succession de temps ponctuels. Et pour que un travail se fasse dans la longueur, c'est hyper important. Et deuxième chose, c'est les événements de poésie se doivent d'être un peu plus comment dire, un autre mot que mainstream, mais quelque chose de beaucoup plus courant, parce qu'en fait il y a un autre rapport au spectateur, un autre rapport au spectacle. Là, je parle vraiment de la question du public, en fait. On va dire que la poésie n'est pas, on va dire, la discipline artistique la plus répandue, la plus écoutée. On en entend rarement à 20h sur le service public à 22h, par exemple, à 20h. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on va à un événement de poésie, il y a un rapport public qui est complètement différent. Les choses sont beaucoup plus légères. Souvent, quand on va dans des salles de spectacle, tout ça, en fait, les artistes, on les voit jamais. Après, il y a une espèce de truc de rituel, de je viens, je mets ma place, voilà. Oui. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert où ça circule. Et ça, c'est important.
Moi, je trouve ça intéressant avec la poésie, c'est en effet. On est sur scène, on a un rapport public, mais le quatrième mur, on va dire, de la scène, il est très fin et très facilement traversable, en fait, avec la poésie. Et je trouve que c'est une façon d'être dans les arts de la scène et les arts vivants qui touche en effet plus fortement, peut-être, enfin d'une autre façon, peut-être pas, mais d'une autre façon, le public.
Ouais, sur cette question d'adresse. Je crois que c'est quelque chose qui nous amuse beaucoup. Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup essayer. Alors là, je pouvais pas trop le faire pour les Larsen, mais aller dans le public, vraiment m'adresser directement aux gens. Et c'est, je pense, la poésie permet ça aussi, parce que c'est l'idée, c'est de rendre la poésie beaucoup, de la faire redescendre, en fait, de son piédestal, et la rendre plus accessible, et en fait se montrer que tout. Enfin, c'est un peu, je pense, on partage un peu ça tous les trois, que c'est du quotidien aussi, que c'est du travail aussi, et que c'est un truc qui se fait à plusieurs, pas que tout seul, en fait.
Et je trouve ça, voilà, je vais interroger sur vous en tant que sur scène, parce que bah, c'est une façon aussi de transmettre, parce qu'à la fois on porte le texte et à la fois on l'adresse. Donc il y a à la fois la notion de jeu, de présence sur scène, et à la fois la notion de je vais vers le public. Donc c'est quand même une interprétation qui mêle pas mal de qualités, je trouve, pour être autant être dans le texte que savoir le transmettre, le donner. Et cet aller-retour, en fait, c'est un travail fluide, c'est un travail qui demande peut-être des fois aller le chercher. Comment ça se passe en fonction des publics?
On en parlait avec Mélanie juste avant de monter sur scène. On se disait la difficulté quand on dit de la poésie, c'est de, on n'est pas non plus dans le théâtre, donc c'est pas d'en faire trop, et en même temps on a envie qu'il y ait quelque chose qui passe, quelque chose qui se passe, que ça fasse quand même un peu spectacle d'une certaine façon. Et donc on est un peu dans un entre-deux. Moi je sais que je joue beaucoup sur juste la voix, parce que c'est aussi un de mes métiers, la radio, donc du coup je m'accroche à ça, on va dire. Mais j'aime bien aussi les poètes qui je sais pas, qui bougent beaucoup, qui font un peu un truc un peu spectaculaire. Mais c'est vrai que on en parlait juste avant, donc
chacun, vous avez votre personnalité et style. Autant Emmanuel est très dans le rythme, la rythmique, votre écriture le porte, mais votre adresse au public est de là aussi. Voilà, chacun, vous avez votre univers.
Moi, je considère vraiment le moment de déclamation comme en fait mon boulot en tant qu'auteur, en fait. Et puis après, chacun va avoir des démarches complètement différentes. Moi, par exemple, je ne pense pas au rythme quand j'écris. C'est un travail que je fais après, par exemple. J'écris pas du tout avec la voix. Moi, je fais que des.
C'est dingue. On est étonnés parce que dans le rendu.
C'est assez récent, ça fait que deux ans que je fais ça, mais oui. En fait, j'ai appris, c'est là où je me suis beaucoup plus libéré en tant qu'auteur, c'est quand j'ai réussi à dissocier la voix et l'écriture.
Parce que tu viens de la scène, précise-le, parce que c'est particulier quand même.
Je viens de la scène par défaut, parce qu'au moment, quand on commence à écrire et qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un éditeur, la première chose qu'on fait, c'est qu'on déclame dans les cafés. Ou sous les abribus.
C'est la première chose que toi tu as fait, mais moi non, je suis pas.
Voilà.
Il y a un lien à la musique, parce que si je dis pas de bêtises, il y a un duo musical dans lequel vous œuvrez aussi. C'est Papier Bruit, hein, si je dis pas de bêtises.
Non, je crois que vous avez parlé. Papier Bruit, c'est avec terminé depuis deux ans.
D'accord, c'est terminé, mais il y a aussi un projet. Enfin, il y a les projets musicaux, quoi.
Oui, voilà. Moi, j'ai eu quelques projets musicaux, dont un qui s'appelait Papier Bruit, et justement ces 12 dernières années, qui est un groupe de hip-hop, en effet. Et à côté de ça, ça m'est arrivé d'écrire pour d'autres personnes en musique, mais je pensais que vous faisiez allusion à la proposition musicale qui a ouvert le festival vendredi, qui est un duo poète et batteur que je mène avec Eric Pifto, qui est batteur. Et là, l'idée, encore une fois,
c'est on est dans le rythme quand même.
Ouais, mais justement, l'idée c'est pas d'écrire pour ce projet-là. Non. L'idée c'est de mettre en voix les textes déjà publiés. Donc c'est des texte de ma poésie, et donc c'est de trouver une autre rythmique. Et ce que j'apprécie, c'est qu'on est dans la percussion, quoi. Dans la percussion, il n'y a pas de mélodie.
Et sinon, pour répondre à la question qui était posée, ce qui est particulier, c'est qu'on lit nos propres textes, à la différence de comédien ou comédienne. Et donc, je pense que c'est très exigeant dans la présence, dans l'authenticité, en fait. Et c'est vrai qu'on est à la fois dans le texte, mais en même temps on l'a écrit nous-mêmes, donc on l'habite complètement, ce texte, et en même temps c'est le moment où on peut le partager aux autres. Donc ça nous met dans un état de fragilité vraiment énorme, et en même temps c'est ce qui est beau. Et ce qui fait que aussi en tant que spectatrice, on peut prendre beaucoup de plaisir à aller écouter de la poésie. Donc j'invite tout le monde à aller écouter les poètes et les poétesses lire sur scène. À Rouen notamment, il y a pas mal de scènes ouvertes maintenant, et c'est génial, quoi. Il y a la maison d'oralité et tout, il y a plein de propositions, et voilà.
Ah, il y a cette notion de don, on donne un peu de soi quand même.
On donne beaucoup de soi, ouais.
JC.
Oui.
Je n'oublie pas que j'ai quand même un collègue animateur.
Oui, c'est gentil, merci Nathalie. C'est nous aussi, on écrit à deux aussi. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui lie un petit peu aussi votre façon d'aborder les choses. Tout à l'heure, vous parliez de transmission. Vous parliez parmi vous, vous faites des ateliers. Il y a transmission. Il y a cette notion de comment finalement, et tu le touchais un tout petit peu du doigt, Mélanie, en disant, il faut aller se nourrir de poésie. Il y a ce côté transmission, ce côté faire avec les autres. Moi, je me rappelle d'une conversation avec Mélanie qui date d'il y a très longtemps maintenant, qui me dit, sur je ne sais plus, trop quelle remarque, qui disait, mais il faut écrire, il faut y aller, il faut comme si, finalement, ce goût de la poésie, finalement, devait se propager, devait se passer aux autres. Cette notion de transmission, en fait, j'ai la sensation que vous l'avez, en tout cas, elle est commune à vous trois.
Alors d'ailleurs, petit instant promo, le 12 et le 13 juin à Évreux, il y a les ateliers Les Mots Devant Soi. Donc voilà, je propose ces ateliers-là avec l'association Les Mots Devant Soi. Voilà. Vas-y, je vous laisse répondre pour le plus intéressant. C'est mon instant promo.
Non, en fait, la question me fait penser à quelque chose. En fait, c'est qu'en fait, je pense pas que ce soit le fait en fait d'écrire qui soit intéressant là-dedans. C'est personnel. C'est qu'en fait, c'est que le dispositif de l'atelier d'écriture, ça permet à un moment à chaque personne d'être dans un recueillement de ici et maintenant, de présent, et de pouvoir prendre un recul sur une situation. Je veux dire, si on ferait, si on était en train, si on proposait, ça serait la même chose si on faisait du yoga, par exemple, j'en sais rien, ou une pratique sportive. Enfin, bon, voilà, je mets la poésie et le sport dans la même catégorie, mais c'est perso. Je veux dire, c'est que je pense que c'est permettre à des personnes d'avoir juste un dispositif de recueillement et de remettre de sentir qu'on a une caméra et qu'on peut la bouger. Alors des fois, selon la personnalité, la vie de chacun, la caméra, elle est des fois trop centrée sur soi, donc il faut la tourner, et des fois c'est le contraire. Et en fait, l'atelier d'écriture permet ça plus que propager une espèce d'être dans une propagande de la poésie, par exemple.
Oui, mais c'est pas le même exercice que d'écrire. Enfin, on pourrait imaginer que chacun soit dans une démarche d'écriture, de là à emmener les autres à écrire, c'est quand même une autre démarche de se dire je vais emmener d'autres personnes à écrire.
Oui, c'est une autre démarche. Soit, et après on décide si c'est un atelier d'expression ou un atelier de poésie, qui là implique en plus de la construction, tout ça. Et après on a toutes et tous différentes démarches. Moi au début, quand je commençais, j'ai appris petit à petit. Je n'osais pas trop toucher aux choses. C'est-à-dire, je faisais, en fait, ce que j'analyse maintenant, c'est que je faisais plus ce que j'appelle du coup des ateliers d'expression, c'est-à-dire que je donne des propositions d'écriture, ils écrivent. Et maintenant, moi, j'ai décidé de théoriser ça comme ça. Et à partir du moment que je me suis de plus en plus autorisé à intervenir, à travailler avec eux sur les textes, comme ça, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus dans ma place d'auteur, parce que en travaillant en chantier avec ce qu'ils faisaient, ils voyaient aussi le travail que moi je faisais personnellement. Tu vois, là, t'as écrit ça et tout, c'est intéressant, tu mets en place un schéma. Ça te dit qu'en fait, là, tu commences à construire quelque chose et que c'est ça qu'on développe. Et en fait, là, j'avais l'impression, moi, d'être de plus en plus dans la médiation et dans la transmission, plutôt que de laisser juste une proposition, écrivez ce que vous voulez, après on lit. Et c'est la démarche de la transmission, elle est passionnante. Et quand on rencontre des autrices et des auteurs, on a tous, si on n'a pas fait de formation, et on se rend compte qu'on est obligé, on est forcé de développer nos propres outils qui sont liés à notre propre pratique, à notre propre parcours, à notre propre lecture surtout. Et c'est passionnant. Et moi, je rêve de table ronde, d'un festival d'ateliers d'écriture, pas pour pas dans le sens de d'être un festival amateur, parce que il en faut, c'est pas ça que je veux dire. C'est que l'idée qu'il y ait des tables rondes, des discussions, et qu'on montre, moi par exemple, le truc que j'ai jamais fait de ma vie, jamais j'autoriserai un autre auteur à venir dans mes ateliers, et jamais j'irai aux autres, j'aurais trop les boules, quoi. Mais par contre, j'adore être avec un public à la table en train de travailler, parce que j'adore la cuisine d'écriture.
Ouais. C'est rigolo, ça, cette histoire de se dire je voudrais pas qu'il y ait un autre auteur qui vienne dans mon atelier.
Non, c'est juste des mauvaises raisons.
Moi par contre, j'aimerais bien venir dans un de tes ateliers, Emmanuel. Ouais, c'est possible,
si, on va venir sous anonymat.
C'est quand le prochain? On peut venir.
Écoute, à toutes les collectivités locales, je peux transmettre mes tarifs à la radio.
Cette notion de transmission, Mélanie, Sarah, ça aussi c'est quelque chose qui vous porte, qui vous parle, j'imagine, hein, c'est une question histoire de d'alimenter la discussion, mais c'est comment ça vous porte, enfin quels sont les éléments qui vous amènent à cette notion de transmission?
Oui, oui, bien sûr. J'aurais du mal à répondre aussi bien que Mélanie, qui est quand même enseignante, donc qui le fut. Donc je suis pas aussi transmetteuse que ça, mais en tout cas, bien sûr que c'est très très important. Mais c'est un peu la même chose que ce qu'on fait aussi sur scène, c'est essayer de le passer, quoi, à quelqu'un, de passer les mots et que les gens nous suivent. Et moi, ce que je trouve toujours très émouvant, c'est surtout avec certains publics où parfois on a des gens qui sont vraiment très très éloignés de la lecture et de l'écriture et qui nous disent non mais moi c'est pas la peine, je vais pas y arriver, et qui à la fin sont, il y a une fierté évidemment de produire quelque chose, de montrer qu'on est capable aussi de créer, et de créer encore une fois la même chose, mais à plusieurs, quoi, qu'il y ait des échanges au sein d'un groupe quand on fait un atelier par exemple.
Je repense, on a eu Charlène au tout début de notre émission, et justement elle qui œuvre dans son quotidien et dans cette maison à faire que la poésie, ou du moins les mots écrits avec cette poésie, se fasse partie du quotidien. Elle œuvre vraiment que, voilà, pour les publics, de plus en plus d'ouvrir, de développer, vous, votre quotidien de vie avec votre métier et les lieux ouverts, mais aussi pour le public. Et qu'aujourd'hui, la poésie, au 21e siècle, elle ne peut pas faire sans les autres, sans le public. Mais j'avais toujours cette question. Est-ce qu'il y a encore des poètes qui restent, ou est-ce qu'il existe des poètes qui restent totalement immersifs, eux avec eux-mêmes, c'est-à-dire sans cette relation à l'autre aujourd'hui?
Il doit en exister, heureusement, en fait.
Ouais.
Parce que, encore une fois, c'est pas parce que nous on va vers les gens ou il y a des personnes qui vont vers les gens qu'il faut qu'on fasse tous la même chose. C'est pas possible, quoi.
Mais vous en connaissez, c'est des choses. Vous rencontrez.
Se cache.
Vous voulez des noms, quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Non, alors pas des noms, des références.
Non, je veux dire.
Demandez à votre libraire.
Mais moi, j'ai une certaine admiration pour les poètes et les écrivains, écrivaines en général, qui consacrent toute leur vie.
C'est ça.
Pas les deux en même temps.
Toute leur vie à ça, et j'en serais totalement incapable. Moi, personnellement, j'ai besoin d'être aussi soit dans la transmission, soit dans la vie par ailleurs, ou dans d'autres activités pour nourrir aussi l'écriture. Mais il y a effectivement, ça existe, des gens qui ne font que ça, qui s'enferment, qui partent en résidence pendant 4 mois sans voir personne. Moi, j'en suis totalement incapable. J'ai vraiment besoin de
c'était
changer.
Pour donner un vision, un aspect.
Bien sûr,
c'était peut-être
sûr.
Un peu direct, mais c'était pour être...
L'écriture n'est pas une activité sociale, en fait. On est obligé à un moment de...
Alors,
parce que pour moi...
Débat.
Mais non, mais non, mais là, ce qu'on a fait, c'est pas, pour moi, c'est pas de l'écriture, en fait. C'est une autre étape, en fait. Donc, voilà.
En fait, moi, par exemple, le fait d'accompagner mes livres, c'est aussi soutenir ma maison d'édition principale, qui est Les Vingt Derniers, et aussi soutenir aussi, évidemment, mes autres maisons, qui sont des maisons indépendantes que j'aime beaucoup. Mais Les Vingt Derniers, c'est une maison artisanale, et en fait, on travaille ensemble, quoi, et donc je défends beaucoup ce travail parce que j'y crois. Et donc c'est aussi accompagner le livre et avoir conscience de toute la chaîne du livre. J'adore aller en librairie, on n'est pas payé quand on va en librairie la plupart du temps, et ben j'adore y aller parce que je remercie les libraires de vendre mes livres aussi, quoi. Enfin, on travaille ensemble, donc c'est aussi une conscience de la chaîne du livre. Bon, voilà, il y a des auteurs qui n'aiment pas, qui ne veulent pas, pourquoi pas, mais en même temps ils soutiennent pas non plus ce travail qui est fait en amont et sans lequel leur texte ne serait pas lu. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi on fait ce travail-là, quoi. Et puis aussi partir 2 mois ou 3 mois en résidence quand on a des enfants, on peut pas, en somme. Ou quand on a des parents à charge, ou quand on a un chien, je sais pas moi.
Donc, une vie simplement.
Ouais, voilà. Donc, et la plupart des revenus pour un auteur ou une autrice, c'est la résidence qui dure 2 mois. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà. Et heureusement qu'il y a des lieux comme Poésia.
Mais oui. C'est intéressant d'être dans la.
Moi, je me demandais un truc qui est peut-être un peu perso, mais est-ce que vous vous souvenez de la première rencontre avec un texte que vous avez eu, un truc ou une espèce de conscience de se dire oh, ça, c'est les mots mis comme ça. Alors, ça peut remonter à l'enfance, à l'adolescence ou je sais pas, à la vie adulte. Est-ce que vous vous souvenez du texte, alors pas des textes, mais des mots qui vous ont peut-être un moment. Ouais, vous personnellement. Ah oui, c'est là je viens vraiment vous. Non, pas vos mots à vous, les mots que vous avez lus de d'autres. Est-ce que vous vous rappelez la rencontre avec les mots, en fait? Enfin, j'imagine le. Je sais pas. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment il y a des mots qui vous ont touché?
Oui, un truc, c'est radical. J'ai 13 ans et j'écoute à la radio le morceau Affirmative Action de Nas qui passe à la radio, qui est un rappeur. Et en fait, j'ai 12 ans et j'entends en fait un morceau de musique où en fait il y a une personne qui intervient et qui parle directement à l'auditeur sans en fait la mélodie qui infiltre encore en plus. Et ensuite, c'était Arsenic quand j'avais 15 ans. Bon, j'écoutais bien sûr de la musique avant, mais on dit que l'espoir fait vivre. Mais ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. Quand on entend ça à 15 ans, on fait un exposé dessus en classe de français et c'est comme ça.
Et c'est parti.
Oui, il y avait les chansons dans la voiture pour, sur le chemin de l'école et tout ça. Dans la voiture de mon père, il y avait souvent Julien. Mais surtout, je me souviens du premier livre que justement mon père me lisait à voix haute avant que je ne sache lire. C'était Petit arbre de Forrest Carter. Et dès que j'ai su lire, je l'ai lu toute seule. Et ce livre, en fait, il continue de m'habiter. Je l'ai lu à mes enfants à voix haute aussi, et j'ai pleuré en le lisant tellement je prenais conscience en le lisant à quel point il m'avait fondé. Et il avait fondé mon rapport au vivant, par exemple, dans la culture cherokee qui est présente dans ce livre. Eh bien, le rapport aux arbres, enfin, les arbres se parlent, il y a une symbiose totale avec le vivant. Et moi, ça m'est tellement proche depuis l'enfance, et je comprenais que c'était lié à cette première lecture fondatrice, quoi.
Sarah, des mots qui vous ont percuté ou qui vous ont touché particulièrement?
Oui, alors c'est évidemment très très difficile de choisir un seul auteur. J'étais en train de réfléchir pendant que mes camarades répondaient. Et du coup, pour sortir un petit peu peut-être de l'enfance, c'est pas les premiers textes qui m'ont touché, mais moi j'ai adoré le moment où j'ai découvert Pérec, en fait. Juste Pérec, au niveau de la forme, c'est infini. Et espèce d'espace, enfin il y en a vraiment beaucoup, mais quand on fait de la poésie, Pérec, c'est évident, quoi. Il y a une sorte d'évidence qui arrive et qui est juste, voilà, qui est parfaite. Donc ouais.
Voilà, c'était le truc perso que j'aime bien des fois trouver. Vous pouvez réagir, hein. Emmanuel, je vois que vous faites du off là sur. Ah oui, vous détestez.
On a droit. Non, je veux pas arrêter. Après, ça va être pris. Il y aura des montages avec. Avant, rendez compte. Il déteste Pérec.
C'est du direct. C'est du direct. Et puis le choix de vous mettre tous les trois, quand même, c'était aussi le choix du débat et de la pour nous de
tu veux te fighter ou quoi?
C'est quoi? En vrai, on est copains tous les trois depuis pas mal d'années. C'était chouette d'être programmés ensemble. Mais ça, oui. C'est un chouette clin d'œil de la part
de la factory. Mais oui, totalement, on le sent, cette complicité.
Et puis cette complémentarité aussi dans les postures, dans la façon de faire, dans la. Je vois Emmanuel qui se redresse. Mais il y a vraiment quelque chose, et on l'a retrouvé dans vos références de premiers. Enfin, pas dans références, dans les premiers textes qui vous ont touché. Il y a un flow parfois dans la lecture. On sent qu'il y a un lien hip-hop qui peut exister parfois, notamment il y a tout un passage dans le texte que vous avez lu autour de la rythmique, qui est en fonction de la rythmique, on en perçoit autre chose, et ça c'était hyper présent dans vos textes.
Et j'adore parler de ça, parce qu'en fait j'adore parler cuisine, et en effet, ce qui est hyper important pour moi, mais c'est comme ça que je pense en fait, fait c'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est la manière dont on dit, c'est la structure des moyens de production qui crée le produit. Donc moi je m'intéresse pas tant à, c'est pour ça que je travaille de plus en plus avec des phrases qui me viennent avec l'aléatoire, mais en fait c'est la démarche qui crée en fait l'objet, et c'est exactement ça, c'est que, et le plus important pour moi c'est le lien, c'est ce que je me suis rendu compte ces dernières années, c'est que je commence de plus en plus, et je crois que j'ai enfin trouvé l'endroit d'écriture où je suis, et ce qui est important pour moi c'est le lien, et c'est pour ça en fait que je développe toujours en plus de l'écriture peut-être cette activité sociale qui est celle de la lecture, et donc du coup c'est comment parler du lien dans la production même du poème.
Ce qui me fait le petit parler, parce que Sarah, moi, il y a un élément qui m'a interpellé particulièrement, c'est votre vie radiophonique. Forcément, quand on est en radio et qu'on croise quelqu'un qui a une vie radiophonique, ça nous parle forcément. Et cette histoire de rythme, je sais plus, il y a un moment où on disait, et notamment sur les matinales de certaines radios, en disant finalement c'est pas le contenu qui est important, c'est le rythme en fait. C'était juste, je pense à des, pas les meilleurs des matinales, hein, forcément, mais sur des matinales, c'est terrible comme on est assommé de rythme en fait, c'est juste du rythme. Ouais. Peu importe ce qu'on dit les animateurs ou les intervenants ou les chroniqueurs, finalement c'est le rythme qui a porté les 3 heures d'émission de matinale. Alors, bon, un titre perso, chez nous on trouve ça un peu triste, hein, que ce soit que le rythme qui porte le truc, mais c'est hyper important aussi ce rythme en radio. Ce qui m'amène pas à vous parler forcément de rythme, hein, Sarah, sur la radio, mais sur cette notion aussi, ce lien entre poésie radio, mots, texte et radio. Je voulais savoir un petit peu quel lien vous y mettiez dans cette activité radiophonique de podcast, de radio, de production de programmes, et ce lien avec la poésie.
Oui, j'ai commencé par la radio, donc c'est mon métier de départ, et évidemment le lien c'est l'oralité, c'est dire les poèmes et non pas seulement les lire, c'est effectivement une question de rythme quand même, pour le dire. Et de comment on pose sa voix. Finalement, c'est la même chose. Quand on est sur scène, on a aussi une manière de poser sa voix qui est bien sûr différente que quand on parle aux gens. Je trouve aussi que l'audio, moi j'utilise beaucoup la radio aussi dans mes ateliers justement de transmission, on parlait de ça. Je l'utilise aussi en, parce que je travaille aussi un peu en théâtre, donc on essaye de faire des formes un peu de théâtre radio en utilisant, voilà, c'est l'audio,